Vous écoutez
RMC.
Bon début de week-end à l'écoute d'RMC. Il est tout pile 8h.
RMC, la matinale week-end.
Les infos Clément Gouitz, bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La militante LFI Rima Hassan, convoquée par la police pour apologie du terrorisme, les insoumis dénoncent des pressions politiques. Les automobilistes franciliens invités à trouver un itinéraire bis après la fermeture de l'A13 entre Paris et Vaucresson. La grosse désillusion pour la paire de double française Corvée Labarre, une erreur de la Fédération internationale de badminton leur prive des JO.
Les Insoumis dénoncent donc une nouvelle intimidation inacceptable après la convocation par la police de Rima Hassan.
La militante franco-palestinienne sera entendue le 30 avril prochain par la police pour apologie du terrorisme sur des faits qui auraient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier. La candidate LFI aux européennes dénonce des pressions politiques visant à compromettre sa liberté d'expression. Convocation qui intervient quelques heures après la double annulation de sa conférence sur la Palestine en compagnie de Jean-Luc Mélenchon à Lille. Romain Cluzet.
Et l'un des arguments de la France insoumise porte sur le motif de cette convocation. Le document ne précise pas quels termes exacts sont reprochés à Rima Hassan, la candidate en 7e position sur la liste des insoumis, et malgré tout au cœur de plusieurs polémiques ces dernières semaines. La principale concerne une interview au média Le Crayon au mois de novembre dernier. À la question « Le Hamas mène une action légitime », Rima Hassan répond « Vrai ». Depuis, la juriste précise qu'elle parlait de l'action politique de cette organisation et répète qu'elle condamne l'attaque terroriste du 7 octobre. Après l'annonce de cette convocation, Rima Hassan se dit très sereine et dénonce des pressions politiques pour l'empêcher de s'exprimer sur la situation à Gaza.
Rima Hassan qui dénonce donc des pressions politiques, à qui pense-t-elle? À quel parti pense-t-elle? Est-ce qu'elle assume encore tous ses propos? Est-ce qu'elle en regrette certains? Elle sera avec nous tout à l'heure, l'invitée de la matinale week-end à 8h40.
Un imam de Toulouse expulsé vers l'Algérie. Cet homme de 61 ans a été interpellé hier matin et condamné pour provocation à la haine et la violence envers la communauté juive, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur le réseau social X. Son avocat conteste cette expulsion. Une audience en référé est prévue ce lundi au tribunal administratif de Paris. La marche contre le racisme et l'islamophobie organisée par LFI Solidaires et le NPA aura bien lieu demain à Paris. La justice a suspendu hier l'interdiction préfectorale. Elle estime qu'une telle décision porterait une atteinte grave et illégale à la liberté de manifestation. Les autorités craignaient des troubles à l'ordre public.
RMC, il est 8h03. Armez-vous de patience si vous êtes sur les routes ce week-end.
Les vacances de Pâques se terminent pour la zone C. Elles commencent pour la zone B et la zone A entame sa deuxième semaine de congé. C'est orange dans le sens des retours en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange également dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Ajoutez à cela la 13, l'autoroute pour rejoindre la Normandie est fermée à la circulation jusqu'à lundi. Une importante fissure a été détectée hier matin entre Paris et Vaucresson. Et pour les automobilistes qui se sont retrouvés coincés, on pense déjà à des solutions pour ce week-end et lundi.
Personnellement, ça va être l'alternative que je vais utiliser. Deux roues et peut-être tout simplement anticiper un petit peu plus mes trajets au quotidien.
Eh ben, on va être obligé de prendre la nationale tous les jours en fait. Moi, j'aime pas les bouchons. J'ai pas la patience.
Bah, il va falloir faire tout le tour. Ça fera 20 minutes, une demi-heure de plus de trajet. Mais bon, il vaut mieux qu'il ferme. Il vaut mieux que ça soit le bazar. Je préfère avoir fait 3h30 plutôt que passer là-dessus.
Une réouverture de cet axe pourrait être envisagée dans le courant de la semaine prochaine selon les résultats des différentes études. On devra en savoir plus lundi en fin de journée.
Cet appel de l'établissement français du sang.
L'arrivée du mois de mai et ses ponts entraînent une baisse de la collecte alors que les besoins en transfusion restent élevés. L'EFS souhaite que la population se mobilise massivement. À la Maison du Don dans le 9e arrondissement de Paris, Clément Brossard, les donneurs répondent présents.
Ça va le garrot ?
Ouais.
Ok, encore quelques petites secondes.
Allongé, manche relevée, le bras tendu, Léa s'apprête à donner son sang.
Je ne l'ai pas fait depuis 2016. Ça faisait longtemps, je me suis dit, allez, il en manque. J'y vais.
Sur le lit d'à côté, Astrée, 28 ans, est-elle plus régulière ?
Comme j'ai déjà donné mon sang, ils m'avaient dans leur système. Et du coup, on m'a appelé en me disant, il y a un besoin particulier en ce moment. Le mois de mai, cette année, est un peu particulier. Je pars à l'étranger. Je leur ai dit, bah non, mais si vous avez un créneau aujourd'hui ou lundi, mardi... Je suis toujours.
Et ces volontaires sont les bienvenus pour Michel Villemur, médecin référent à l'établissement français du sang Île-de-France.
Contrairement à la population générale, nous redoutons le mois de mai. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en alerte maximale, hein, mais on essaie de prendre les devants pour éviter justement d'être dans une situation à stock critique où là, il faut faire des alertes, appels aux dons, pénurie. On prévoit justement les difficultés.
Anticiper pour éviter de se retrouver dans la même configuration que lors du week-end de Pâques où l'équivalent de 10 000 poches de sang n'ont pas été collectées.
collectés.
Mais une fois que c'est piqué, je relâche.
Un reportage de Clément Brossard.
Les sports et un coup de massue pour la paire française de badminton, Ronan Labarre et Lucas Corvée.
Ils se voyaient participer aux Jeux Olympiques de Paris, mais voilà, une erreur de calcul de la Fédération internationale de badminton a changé la donne. Une situation inédite et incompréhensible, Enal Marjac.
Il y a encore quelques jours, Ronan Labarre s'imaginait aux Jeux Olympiques cet été.
J'étais aux anges en me disant que j'aurais la chance de faire encore quelques matchs à Paris pour les Jeux Olympiques.
Mais une erreur de calcul de points datant de mai dernier vient chambouler le classement qualificatif pour les Jeux. Une erreur commise par la Fédération internationale de badminton qui a reconnu dans un communiqué sa faute.
C'est hallucinant, c'est surréaliste. On peut utiliser tous les superlatifs qui existent. C'est surtout une énorme faute professionnelle de leur part. Ils n'imaginent pas du tout ce qu'ils nous font endurer.
Pour autant, l'instance ne compte pas revenir en arrière. Les classements ne bougeront plus. Ronan Labarre et son coéquipier passent donc deuxième paire française et voient leur chance de participer aux Jeux s'éloigner.
On a rencontré un avocat pour se renseigner sur les différentes options qui s'offrent à nous. On aimerait que ça se gère en interne dans notre sport et qu'ils essayent de réparer leur erreur d'une manière qui pourrait convenir à tout le monde.
Car pour l'heure, ce sont finalement les deux frères Thomas et Christophe Popov qui représenteront la France aux Jeux cet été.
En football, la belle victoire de l'OGC Nice hier soir en ouverture de la 30e journée de Ligue 1.
Les Aiglons se sont largement imposés 3-0 face à Lorient. Au classement, les Niçois pointent à la 5e place ce matin. Lorient est avant-dernier. La suite de cette 30e journée cet après-midi, on aura droit au derby breton. On entraîne à 17h. Lens recevra Clermont à 21h. Des rencontres à suivre sur RMC. Et puis la finale de la Coupe de France de handball, c'est ce soir. Le PSG affronte Nantes à la Cora Arena. Coup d'envoi à 21h05.
Et puis, le vinyle est à la fête aujourd'hui, c'est le Disquaire Day.
Au programme, de nombreuses animations dans le réseau des disquaires indépendants. Les vinyles, eux, ont de plus en plus la cote. 4 millions d'unités vendues en 2018, 5,5 millions en 2023, soit 94 millions d'euros. Et ils continuent de séduire un public de plus en plus jeune. Chloé Lagadou s'est rendue chez un disquaire à Amiens. Le constat est sans appel, l'essor du 45 tours chez la jeune génération est bien là.
Accrochés au mur, dans des bacs, sur les étagères, dans la boutique, les vinyles sont partout. Sur fond de musique rock, Jules parcourt les allées à la recherche d'un nouveau 45 tours.
Je trouve sympa que les vinyles, c'est que on met le vinyle sur la platine, c'est un moment où on écoute, prête plus attention à certaines sonorités que par rapport au streaming où voilà, on écoute et on fait même pas gaffe à ce qu'on a écouté. Quoi.
Et si Jules ne doit garder qu'un seul vinyle,
ce serait l'album de Let It Be quand même, les Beatles. When I find myself in
times of trouble. Plus qu'un disque, le 45 tours est aussi un objet de collection pour Malicia.
Souvent, il y a aussi des posters, des objets qui vont avec. Je suis très fan de Taylor Swift, donc j'ai quasiment toute sa discographie. Ils sont tous hyper beaux.
Le vinyle a le vent en poupe chez les jeunes et ça, Pierre, disquaire depuis 29 ans, l'a bien remarqué.
Il y a une révolution dans l'achat du vinyle par rapport à la clientèle. Cette semaine, je suis un gamin tout strat 14 ans qui me demandait du Mireille Mathieu. Ça fait chaud au cœur, ça réconforte en disant le disque n'est pas mort.
Si aujourd'hui les acheteurs sont plus jeunes, certaines choses elles ne changent pas. Le vinyle que tout le monde s'arrache, Dark Side of the Moon des Pink Floyd, sorti en 1973.
Eh oui, l'engouement pour le vinyle qui ne se dément pas et on le constate depuis ce matin, Peggy, puisqu'on fait gagner les vinyles de la discothèque RMC, là c'est collector. Hein.
Ah ouais, et vous êtes nombreux. Hein,
et vous êtes nombreux, restez bien à l'écoute, participez. Thierry nous dit je serai le plus heureux du monde si vous retrouvez dans la cave d'RMC le 45 tours de Jean-Jacques Goldman, Nuit de solitude.
On va chercher.
Avec Jour bizarre en face B. Mais non seulement on va chercher, mais restez à l'écoute, Thierry, parce que peut-être qu'il va tomber là dans notre jeu. Hein.
Et ce serait bien de participer et pourquoi pas de gagner.
Eh bah exactement. Restez bien à l'écoute de la matinale week-end. Il est 9h09.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Il y a les vinyles, mais il y a aussi notre beau cadeau dans le 10 minutes chrono à l'occasion du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.
Et oui, et comme toutes les participantes, vous allez remporter votre kit d'équipement Bosch Car Service, brosse de nettoyage sans fil, une visseuse également, un set d'outils à main, une caméra intérieure 360 degrés, enfin bref, la totale, tout ça d'une valeur de 500 euros pour prendre soin de votre voiture.
Bon, vous voulez ça, 3216 la touche 4 ou matin par SMS au 732 16, le mot matin par SMS au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à vous.
À suivre dans la matinale week-end.
Elle se dit donc sereine et combative, la militante franco-palestinienne Rima Hassan, candidate insoumise aux européennes, convoquée par la police pour soupçon d'apologie du terrorisme. Elle est notre invitée tout à l'heure à 8h40.
À 8h20, la story sport. Vous nous parlez de quoi ce matin, Raphaël Redon? Bonjour.
Eh bien, bonjour à tous. On va parler foot féminin, Ligue des Champions ce soir, Cocorico, demi-finale aller, Lyon-PSG. Pourquoi les clubs français réussissent si bien? Réponse à 8h.
À tout à l'heure, Raphaël. D'abord, ces hôtels, ces restos, ces trains qui ne veulent plus d'enfants. interdit aux enfants, est-ce de l'intolérance? Vous débattez ce matin au 32-16 avec Lélia Benoît, pédopsychiatre, qui est notre invitée dans deux minutes.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil à l'écoute d'RMC, il est 8h14.
Le témoin RMC.
Et notre témoin ce matin, c'est Lélia Benoît, pédopsychiatre à l'université de Yale aux États-Unis et Aline Serme en France, auteur d'infantisme aux éditions du Seuil.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Adult only, de plus en plus d'hôtels, de restos, de clubs de vacances qui assument cette politique. Les enfants qui ne sont plus bienvenus dans l'espace public. En France, la sénatrice Laurence Rossignol vient même de déposer une proposition de loi pour faire interdire ces espaces sans enfants, c'est de l'intolérance, dit-elle. Notre société est-elle devenue de plus en plus intolérante aux enfants? C'est la question qu'on pose à nos auditeurs depuis ce matin. Je vous la pose à vous aussi, Lélia Benoît. On est de plus en plus intolérant?
Je pense que oui, ce vocabulaire-là, « no kids » ou « kids free », c'est un vocabulaire d'exclusion, d'intolérance, de rejet des personnes, juste pour les personnes qu'elles sont. Des enfants, pas à cause des comportements qu'ils ont, mais juste parce qu'ils sont des enfants.
Et alors pourquoi spécifiquement pour les enfants?
Ce qui se cache derrière No Kids ou Kids Free, c'est la peur que l'enfant gêne, quoi. La peur que l'enfant parle, que l'enfant fasse du bruit, que l'enfant bouge. Et donc, au lieu de dire « on aimerait que cet espace soit calme », ce qui existe déjà d'ailleurs, hein, parce que dans le train, il y a des espaces calmes, des espaces tranquillité. Mmh. Au lieu de dire « voilà, on a envie d'être au calme », quitte à dire aux enfants « si tu veux être là, c'est important que tu sois calme », on dit « je t'exclus d'emblée, quoi. De toute manière, t'es un enfant, tu vas pas y arriver ».
Mais parce que peut-être qu'on a l'impression, Lélia Benoît, que ça ne suffit plus. Et on a beaucoup de messages comme ça qui disent « à la limite, le problème, c'est pas tant les enfants, c'est les parents qui savent plus les tenir ».
Alors, peut-être, mais dans ce cas-là, on va pas créer un vocabulaire ou créer des normes pour exclure les enfants tout court. On peut lancer un dialogue, parler de la question de est-ce qu'on peut être au calme, etc. Mais exclure les enfants d'emblée, c'est comme dire « c'est pas possible, on veut pas d'handicapés, on veut pas de vieux, etc. » C'est très excluant comme vocabulaire et ça n'aide pas, en fait, le dialogue.
C'est ça que veut dire infantisme, le titre de votre ouvrage aux éditions du Seuil. Ça veut dire quoi, infantisme?
Infantisme, c'est en fait les préjugés et discriminations contre les enfants et adolescents du simple fait de leur âge, de leur statut de mineur. Quoi, t'as moins de 18 ans, on te discrimine. Et donc, en fait, c'est une forme d'ageisme. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ageisme. L'ageisme, c'est la discrimination liée à l'âge. Hein. Mm-hmm. Mais en général, quand on parle d'ageisme, on imagine...
On pense aux seniors.
Exactement, on pense aux seniors ou on pense des fois aux jeunes adultes. Par exemple, les jeunes adultes sur le marché de l'emploi, on les prend pas au sérieux, etc. Et en fait, on est tellement infantiste, c'est-à-dire que on est tellement sûr que c'est normal de discriminer les enfants que on comprend pas qu'on fait aussi de l'ageisme vis-à-vis des enfants. Donc c'est pour ça que l'infantisme, ça permet de parler de ça, de cet ageisme contre les enfants.
Christine nous attend au 32-16, on va la prendre en direct dans un instant avec vous, Lélia Benoît. D'abord, témoignage de Fred qui nous écrit sur l'appli RMC. Cette semaine au restaurant avec mon épouse, pour la seule semaine de congé de l'année, nous avons été dérangés par les enfants de la table d'à côté qui jouaient au foot. Et il nous dit, ce que je disais tout à l'heure, les enfants sont pas responsables, mais les parents ne savent plus dire non à leurs gamins. Adrien, là c'est encore plus intéressant, nous sommes parents d'une famille recomposée, 4 enfants en garde alternée, et on adore les moments où on peut se retrouver en tête à tête. Donc je comprends parfaitement cette nouvelle clientèle qui demande aussi aux hôtels et aux restos d'être seulement entre adultes. Lélia Benoît.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on peut créer certains restaurants qui sont particulièrement adaptés aux enfants. De toute manière, les familles elles-mêmes qui ont des enfants en bas âge, qui ont besoin de bouger, vont être les premières à aller vers des endroits où on sent que leurs enfants sont accueillis. Et ça, il y a plein de pays, autres que la France, où dans les restos, il y a un espace pour les enfants. D'ailleurs, il y a même des grandes chaînes de restaurants qui faisaient ça, il n'y a pas très longtemps encore, où il y a un espace où les enfants vont jouer. Et donc, à partir du moment où vous avez un espace où les enfants sont accueillis, où il y a des jeux, où il y a un endroit où ils peuvent bouger, vous pouvez être sûr qu'ils vont aller jouer là-bas et vous laisser avoir votre discussion tranquille.
Adapter les espaces, le partager.
Exactement.
Christine est donc avec nous. Bonjour Christine.
Bonjour.
Professeur des écoles, Christine. Les enfants, oui. Vous les côtoyez au quotidien, les vôtres et les enfants des autres.
Exactement, parce que ça fait 40 ans que j'enseigne. en primaire et j'ai aussi bientôt 10 petits-enfants et à chaque vacances, j'en prends 7 avec moi.
Oh là 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 là, la courageuse Christine. Je pense que vos enfants vous remercient de prendre en charge les petits-enfants pendant les vacances. Hein.
Ah oui, et même avec mon mari, on se fait interpeller quand on se promène avec les 7 par des jeunes parents qui disent « Oh la chance, nous on aimerait bien que nos parents fassent la même chose ».
Ah bah écoutez, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance quand les parents ou les beaux-parents prennent le relais pendant les vacances, Christine. Mais c'est vrai que c'est remords. D'ailleurs, depuis 40 ans que vous enseignez et que vous enseignez, est-ce que vous confirmez ce que nous disent certains de nos auditeurs, que les enfants sont de plus en plus difficiles à tenir ?
Oui et non. Moi, je trouve que l'enfant n'a pas changé, franchement. Mes premiers élèves étaient nés en 75, donc je ne sais pas si vous voyez quel âge ils ont maintenant. Les enfants gardaient un bon fond, les garçons, les enfants s'émerveillent toujours,
lapsus,
etc. Lapsus,
Christine.
Pourtant, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé en province, là, oui. Je suis en pleine campagne, donc j'ai vu des réalités totalement différentes. Je pense pas qu'il soit plus difficile. Il y en a toujours eu.
Donc cette...
En revanche, les parents sont difficiles parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mais si on les rassure, les parents sont confiants.
Donc cette loi, elle a du sens d'interdire ces espaces sans enfants.
Mais je trouve que c'est tellement aberrant d'être obligé de légiférer sur cet épiphénomène. Mmh. Parce que finalement, notre société, elle est victime d'une poignée de personnes qui ne veulent plus s'adapter à la société, mais qui veulent que la société s'adapte à elle. Et c'est ça, moi, qui me terrifie.
Le vrai problème, il est là, pour conclure, Lélia Benoît.
Donc, moi, je pense, comme Christine, que les enfants n'ont pas changé et qu'en fait, on peut les accueillir, on peut être inclusif. Et imaginez juste, pour les auditeurs, prenez 2 secondes pour vous souvenir de vous à 8 ou 10 ans. Vous étiez intelligent, vous saviez très bien ce que ça veut dire, être calme, pouvoir respecter un lieu. Et si on vous dit, ah non, là c'est kids free, là c'est no kids, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que je suis malade ? Est-ce que j'ai un problème ? Etc. C'est hyper excluant. Au contraire, je pense qu'on peut expliquer aux enfants qui sont très intelligents et qui vont comprendre qu'il y a des endroits où on essaye d'être au calme, etc. Et comme dit Christine, les parents, parfois, ils ont besoin d'être un petit peu accompagnés, de leur dire, voilà, vous pouvez expliquer à votre enfant d'être calme, etc. Et encore une fois, créer des espaces où ils ont aussi un moment pour pouvoir sortir, s'aérer, jouer, un coin qui leur est dédié, ça leur permet aussi de souffler et d'être d'autant plus calme par ailleurs. Mais je pense que les exclure, c'est une fausse bonne idée.
Philippe vous rejoint pour conclure, de manière d'ailleurs un petit peu plus cash. Après des endroits interdits aux chiens, on veut interdire des endroits aux enfants. À quand des endroits interdits aux débiles ? Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat ce matin. Lélia Benoît, pédopsychiatre à Yale, l'université aux États-Unis, à l'INSERM en France. Et merci beaucoup, Christine, de votre témoignage au 32-16. 8h21, le sport et la Ligue des Champions arrivent.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
8h23.
RMC,
la story sport.
L'histoire sport du jour avec Raphaël Redon.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Ce soir, Lyon-PSG, 19h, demi-finale aller de Ligue des Champions féminine. 2 clubs français qui cartonnent en Europe.
Mais alors pourquoi ça marche si bien, Raphaël ?
Eh bien écoutez, parce qu'on a été précurseurs chez les filles, chez les clubs féminins. D'abord parce qu'on s'est appuyé sur la section masculine. On peut parler de Lyon. Lyon, c'est un club historique qui a gagné plein de fois le championnat de France chez les hommes. Eh bien Jean-Michel Aulas, qui a été le président de nombreuses années, eh bien il a décidé en 2004 de racheter le FC Lyon féminin pour obtenir une mixité dans son club et apporter un budget historique à la section féminine. On parlait de 5 millions d'euros à l'époque, c'était énorme, parce que la majorité des clubs qui n'étaient pas professionnels, eh bien c'était simplement 100 000 euros, 200 000 euros. Et Paris a fait pareil. Au moment où les Qataris sont arrivés avec le PSG, eh bien ils ont racheté cette section féminine, ils l'ont fait grandir, ils ont investi, et les meilleures joueuses sont arrivées. D'ailleurs, la première Ballon d'Or historique, c'est une joueuse de Lyon, Ada Egerberg, qui a d'ailleurs prolongé son contrat. Ça montre qu'on est capable de garder les joueuses.
Ce qui explique cette affiche ce soir, Lyon-PSG, les deux clubs qui ont investi en premier. Mais quel était leur intérêt d'investir sur les filles ?
Bah écoutez, pour se développer, pour montrer une image de marque, c'est important. Le sport féminin, on sait que c'est en plein développement. Et bah de montrer qu'on était capable de s'adapter, de mettre le football en avant au niveau de la marque Lyon et PSG, bah ça a aidé. Et puis ça permet de gagner des titres, mine de rien. Parce que Lyon a gagné 8 fois la Ligue des Champions, ce qu'ils n'ont évidemment pas été capables de faire chez les hommes. Le PSG a fait 2 finales, c'est une de plus que chez les hommes. Et d'ailleurs, il y a eu cette finale en 2017, PSG-Lyon.
Ça augmente le palmarès global des clubs. Est-ce que les autres clubs français et européens suivent chiffres, cet exemple.
Alors, en France, pour la première fois cette année, on a eu 3 clubs en Ligue des Champions avec le PFC qui est venu se greffer au PSG et Lyon. On était le contingent le plus représenté. En Europe, on se développe aussi, mais on a pris du retard. La Première Ligue, l'Espagne et l'Italie ont pris du retard, contrairement à l'Allemagne qui a quand même réussi à placer plusieurs fois des clubs, notamment Wolfsburg, loin. Mais ce retard a permis aux clubs français de remporter pas mal de trophées et notamment de pouvoir remporter cette Ligue des Champions à de multiples reprises avec Lyon. On voit que ces dernières années, c'est un peu plus compliqué. Il y a le FC Barcelone notamment qui vient concurrencer le PSG et Lyon. Mais la FFF fait en sorte de pas prendre trop de retard avec un budget qui augmente, qui a été doublé. On est passé de 4 à 10 millions. Les droits télé qui augmentent aussi. Et puis la volonté de professionnalisation. Pour la première fois l'an prochain, eh bien, la première division sera sans doute professionnalisée. Ce soir, en tout cas, 40 000 personnes au Groupama Stadium, qui est le stade habituel des hommes, pour ce Lyon-PSG, demi-finale à la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Raphaël Redon, votre story sport à retrouver sur rmc.fr. Coup d'envoi 19h pour ce 7 demi-finale aller de Ligue des Champions féminine, à suivre bien sûr sur RMC. Bientôt les infos de 8h30, restez avec nous. C'est l'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actu en 5 minutes avec vous, Clara Gabillet, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. 2 adolescents interpellés après le tabassage à mort de Philippe à Grande-Synthe. Ils auraient tendu un piège à ce jeune homme via un site de rencontre. L'établissement français du sang, inquiet d'une baisse des dons au mois de mai, il lance un appel aux dons. Et les vinyles à l'honneur aujourd'hui, c'est le Disquaire Day.
À Grande-Synthe, Philippe, jeune homme tabassé à mort, aurait donc été victime d'un guet-apens.
C'est en tout cas la thèse privilégiée par la justice après l'interpellation de 2 suspects. 2 adolescents de 14 et 15 ans mis en examen et écroués. Ils sont poursuivis pour assassinat après l'agression mortelle de ce jeune homme de 22 ans. Les deux adolescents affirment avoir fixé un rendez-vous à la victime sur un parking près d'une supérette via un site de rencontre qui s'appelle coco.gg. Dans le viseur de l'association Innocence en danger depuis plus de 10 ans, ce site, Mathias Darmon est son avocat.
N'importe quel utilisateur peut y accéder. Il suffit simplement de rentrer son pseudo, son sexe, son âge et son code postal. Aucun filtre, aucune vérification, aucune modération. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on peut se faire passer pour quelqu'un de 12 ans quand on en a 52. On peut se faire passer pour quelqu'un qui en a 48 alors qu'on en a 13. C'est vraiment un lieu d'échange illicite, que ce soit par propos des armes, des stupéfiants ou de pédocriminalité. Vraiment, c'est très dangereux.
Mathias Darmon, invité de la matinale week-end sur RMC. En Alsace, un concert caritatif et solidaire organisé par les proches de Lina. Ce soir, cette adolescente de 15 ans disparue il y a 8 mois, toujours introuvable. Ses proches veulent donc se soutenir et aider dans la poursuite des recherches. Franck sera sur scène ce soir à Plaine dans le Bas-Rhin avec son groupe Why Not.
On connaît Lina, on connaît sa maman. Fanny, Lina se rendait à nos concerts assez régulièrement. On a tous été touchés. Alors en plus, c'est régional et certains membres du groupe habitent à Plaine. L'idée était venue de faire quelque chose pour cette association. Ce qu'on sait faire, nous, c'est chanter, faire de la musique. Donc, on s'est dit qu'un concert, ça pourrait être bien. Le but, c'est évidemment pas de fêter la disparition de Lina, mais de montrer qu'on est là, qu'on soutient. Ça peut être fait aussi dans la fête, dans le respect. On fait bien des concerts pour le SIDAction. Hein. On se réjouit pas du SIDA. Je pense qu'on peut le faire pour une petite fille qui a disparu.
Attention, si vous prenez la route ce week-end en Ile-de-France, l'autoroute A13 est fermée sur le segment Paris-Vaucresson dans les deux sens depuis hier et jusqu'à lundi inclus. Une importante fissure au travers de la route a été observée à hauteur de Saint-Cloud, une fissure profonde jusqu'à 80 cm selon les endroits. L'établissement français du sang appelle à la mobilisation en prévision du mois prochain, car avec les jours fériés et les ponts du mois de mai, les Français ont tendance à moins donner et les stocks s'amenuisent. Il faut donc anticiper, assure Michèle Villemur, elle est médecin référent à l'établissement français du sang.
Contrairement à la population générale, nous redoutons le mois de mai. On a beaucoup de jours fériés, beaucoup de ponts et une diminution des prélèvements. Comme ils s'en vont en week-end, ils ne viennent pas donner. Et pourtant, dans les services, dans les hôpitaux, les malades ont toujours besoin de produits sanguins. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en alerte maximale, hein, mais on essaie de prendre les devants pour éviter justement d'être dans une situation à stock critique où là, il faut faire des alertes, appels aux dons, pénurie. On prévoit justement les difficultés.
RMC 8h34, football et la Ligue 1 en ouverture de cette 30e journée. La victoire 3-0 de Nice face à Lorient hier soir.
Une 30e journée qui se poursuit avec au programme aujourd'hui Nantes qui reçoit Rennes à 17h et Clermont se déplace à Lens à 21h. Vous pourrez le vivre évidemment sur RMC. Le calendrier de la Ligue 1 qui a été aménagé par la Ligue de football professionnelle pour mettre le PSG et Marseille dans les meilleures dispositions. Les deux clubs sont qualifiés en demi-finale de Coupe d'Europe. Toutes les équipes ne joueront donc pas, comme c'est l'habitude, l'avant-dernière journée à la même heure. Le multiplex de la 33e journée ne sera donc pas intégral. L'entraîneur de Brest, Éric Roy, pas convaincu par la décision.
Juste, pas juste, j'en sais rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en France, qu'on fasse ça, quoi. Mais bon, je vois que les Anglais, ils jouent, les Espagnols, ils jouent, les Allemands, ils jouent. Ils jouent les Coupes d'Europe. À partir du moment où t'es qualifié pour une Coupe d'Europe, tu prépares ta saison aussi par rapport à un calendrier. Surtout qu'en France, on nous a vendu le fait de réduire le championnat à 18 clubs pour avoir moins de matchs. Donc on a fait tout ça et on aménage encore les choses. Donc bon.
Et puis du rugby aussi au programme avec le top 14 qui démarre à 15h avec Castres-La Rochelle. À 17h, Pau-Montpellier, Perpignan contre le Loup, Stade Français, Bayonne, Oyonnax Racing 92 et ce soir 21h05, Toulon-Toulouse. Match synonyme de retrouvailles avec ses anciens coéquipiers pour Melvin Jaminet, joueur du RCT qui a quitté Toulouse en cours de saison.
Et puis vous n'oubliez pas, on vous fait gagner des vinyles ce matin sur RMC à l'occasion du Disquaire Day.
Oui, une journée pour célébrer les vinyles et les disquaires indépendants. Les vinyles qui ont de plus en plus la cote, notamment chez les jeunes. 54% des acheteurs ont moins de 35 ans. La preuve avec Tom, 20 ans, passionné de vinyle.
Mon père étant disquaire, j'ai baigné dedans depuis tout petit, donc c'est une passion qui est venue naturellement. Après, ouais, mon premier amour, c'est la musique au sens large. Et le meilleur support, le plus esthétique, c'est le vinyle. Une pochette de vinyle, c'est quand même beaucoup plus esthétique qu'une pochette de CD. Une fois qu'on a le bon système son, le bon ampli, les bonnes enceintes, c'est tout simplement le son analogique plutôt que le son numérique qui a plus de chaleur, on va plus repérer les défauts, etc. C'est une écoute totalement différente et c'est beaucoup plus agréable tout simplement.
Alors, les vinyles RMC, ouais. Ça vous plaît depuis ce matin. Hein. C'est pas pour vous, Clara Gabillet. Et non, et c'est mince. Pour celles et ceux.
De toute façon, j'ai pas de quoi les écouter chez moi.
Donc. Ah bah voilà.
C'est réglé.
Mais beaucoup d'auditeurs d'RMC, visiblement, ont des platines. Parce que vous savez que toute la discothèque d'RMC est mise aux enchères. Je répète que je suis allé dans la cave d'RMC.
Vous les avez piqués.
Les vinyles pour vous les offrir ce matin et demain matin, tout le week-end, à l'occasion du Disquaire Day. Il suffit d'écouter le titre. Et de reconnaître l'artiste. Celui-là, c'est encore assez facile. Tu es d'accord, Peggy? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte d'indice, non?
Oui. Bon. Je chante, enfin, à ma manière, quoi.
Vous avez reconnu cet artiste. Vous composez le 32-16, vous envoyez un message sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio. Le premier ou la première repartira avec le vinyle collector RMC de cet artiste. Allez-y, bonne chance à vous. Gagnant ou gagnante, tout à l'heure, juste avant 9h.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Et nous avons d'ores et déjà un gagnant pour notre autre jeu, le kit pour équiper sa voiture. Bosch, c'est bien ça, Peggy?
Eh oui, Bosch Car Service, dans le cadre du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. On vous offre aussi votre kit. Alors dans ce kit, il y a plein de choses. La brosse de nettoyage sans fil, une visseuse, un set d'outils à main, une caméra intérieure 360 degrés, tout ça d'une valeur de 500 euros.
C'est quand même pas mal.
Histoire de bien prendre soin de sa voiture. Alors qui reporte ce kit?
Eh bien c'est Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous
Bonjour.
Avez joué avec nous par SMS?
Oui, c'est ça.
Eh ben voilà, il y a eu le tirage au sort. Ça tombe sur vous, Christophe.
Kit Merci. D'équipement super, super. Bosch Car Service.
Super,
plutôt sympa.
Super. Ah oui, c'est sympa, ouais. Sympa.
Ça sert toujours à mettre dans le coffre. Comme ça, dès que vous avez un petit problème, hop là, on repart sur de bons rails, comme sur le rallye des Gazelles au Maroc. Merci d'avoir joué avec nous, Christophe.
Merci à vous, merci à vous.
On vous embrasse, bon week-end.
À bientôt, merci, au revoir.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec Bosch Car Service, partenaire du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc depuis 2019. À suivre dans la matinale week-end.
À 8h50, le coup de main conso avec vous, Clara Gabillet. Comment se débarrasser des polluants éternels à la maison? Eh oui, on va faire un peu de tri dans les placards de la cuisine.
Allez, à tout à l'heure. Avant cela, une candidate insoumise aux européennes, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Rima Hassan est notre invitée ce matin sur RMC. On se retrouve dans deux minutes.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bienvenue et merci d'avoir choisi RMC, il est 8h42.
L'entretien RMC.
Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Rima Hassan, candidate de la France Insoumise aux Européennes.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là, de vous expliquer ce matin sur RMC. Vous avez donc reçu hier une convocation pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication en ligne. Des faits qui auraient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier. Sans plus de précisions sur la nature des propos, vous devez vous présenter devant les policiers le 30 avril prochain. D'abord, Rima Hassan, est-ce que vous irez ? Est-ce que vous vous rendrez à cette convocation ?
Oui, bien sûr. On l'a dit dans le communiqué avec mon avocat, on tient bien sûr à la disposition des agents de police et on n'a absolument rien à se reprocher. Donc on ira à cette convocation et on verra ce qu'il en est plus précisément.
Est-ce que justement vous avez un peu plus d'idées ce matin sur ce qui pourrait vous être reproché ?
Non, absolument pas. Ce que je peux par contre vous dire en exclu ce matin, on aura l'occasion de communiquer dessus, c'est qu'il n'y a pas eu d'autosaisine du procureur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procureur en France qui a considéré que mes engagements, mes propos auraient été problématiques. Ça fait suite à un dépôt de plainte de lobbyistes, c'est comme ça qu'il faut les définir, pro-israéliens, qui se tiennent en défense du régime israélien. Et je pense que c'est important de le dénoncer précisément parce que je suis ciblée en tant que personnalité politique au nom des combats que je porte.
Des lobbyistes pro-israéliens, c'est-à-dire, Rima Hassan, si vous avez l'identité d'une association ou d'une personne...
Non, on aura l'occasion d'en parler, puis ça fera partie de la procédure. Et puis moi, je veux aussi avoir le droit par la suite de me défendre sur le plan judiciaire également. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'autosaisine du procureur. Donc il n'y a pas eu de procureur qui a pu considérer que j'ai pu avoir des déclarations ou des propos qui étaient problématiques. Donc ça fait l'objet d'une plainte. Donc il y a un intérêt derrière et ce sont des personnes qui sont proches du régime israélien.
Donc la thèse que vous défendiez hier, pression politique, manipulation politicienne, intimidation, s'effrite.
Ben non, c'était là.
Mais il ne s'agit pas de parti politique ou d'adversaire politique dans la course aux européennes, c'est ça que je veux dire.
Bien sûr que si, puisque vous avez en France aussi dans des partis politiques des personnes qui s'opposent au discours que je peux tenir ou que nous pouvons tenir à la France Insoumise sur la question de Gaza. Je crois que tout le monde est au courant quand même.
Mais alors quel est le parti politique pro-israélien ?
Vous m'avez invité, vous me laissez terminer, merci. Donc il y a bien sûr des divergences sur la question israélo-palestinienne. Je pense que tout le monde est au fait. On ne nomme pas les choses de la même manière, on ne se réfère pas aux mêmes choses. En l'occurrence, nous, on se réfère au droit international, à la décision de la Cour internationale de justice pour nommer le génocide qui est en cours, et on tente de le dénoncer par tous les moyens possibles que nous avons en notre possession. Donc il y a des divergences. Donc ce que je vous dis, c'est que ce sont des personnes preuves à l'appui qui sont proches du régime israélien, puisqu'il y a des photos de ces organisations qui sont proches de personnes qui travaillent pour le gouvernement israélien. Et ce sont des personnes qui sont peut-être aussi soutenues par des partis politiques en France qui m'ont aussi attaqué pour ce que je suis.
C'est très important de dire. Rima Hassan,
ce qui dérange, c'est ce que je suis, ce n'est pas ce que je dis.
C'est aussi votre place, 7e sur la liste en position éligible.
Oui, bien sûr.
Sur la liste insoumise.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est le fait que.
La possibilité que vous soyez élu au Parlement européen dérange.
Oui, moi j'ai déjà dénoncé sur plusieurs médias le fait que j'avais déjà été menacée de mort, de viol, que mon numéro a été divulgué, que mon adresse avait également été divulguée, avant même que je me présente aux élections. Donc j'ai d'abord été ciblée pour ce que je suis, pour ce que je dis en tant que voix militante sur le sujet palestinien. Il y a eu un transfert qui est beaucoup plus important aujourd'hui, qui prend une ampleur qui est très inquiétante. C'est important de le dénoncer aussi pour nos libertés. Qui est un transfert politique aujourd'hui.
Les propos qui ont fait polémique, notamment le média, le Crayon, vous vous êtes déjà expliqué.
Oui, mais c'est pas du tout ça dont il est question. C'est important de le dire parce que cette interview a été publiée en janvier. Et là, en l'occurrence, il s'agit de propos.
Ce sont des faits entre novembre et décembre.
En novembre, tout à fait.
Très bien, donc ça ne concerne pas votre convocation, non. Mais tout de même, ces propos sont ressortis depuis hier soir, puisqu'ils font polémique depuis plusieurs semaines, depuis janvier. Est-ce que vous regrettez une partie de ces propos, notamment quand on vous pose la question, le Hamas mène une action légitime,
claire.
Vous répondez vrai.
Je vais être extrêmement
vous les maintenez.
Clair. Vous êtes journaliste.
Oui.
Donc, je m'étonne que vous soyez frappé par une forme de paresse intellectuelle, parce que si vous êtes journaliste, vous avez à cœur de consulter l'interview en entier, on est d'accord.
Mais ce que j'ai fait, Rima Hassan, je ne suis tellement pas paresseux que je vous repose la question ce matin. Rima Hassan, est-ce que vous maintenez ces propos ? Est-ce que vous les assumez ?
Non, mais ce que vous dites, c'est faux, parce que l'interview n'a jamais été publiée en entier et j'ai dû saisir un huissier et engager des procédures pour pouvoir justement divulguer l'entièreté de l'interview. Ce que vous venez de dire est complètement faux et ça montre bien qu'il y a une paresse intellectuelle puisque l'interview à laquelle vous faites référence n'a jamais été diffusée et elle fait une heure. Ce qui a été diffusé, c'est 9 secondes où le format du média commence par un vrai faux et je me suis expliquée sur Twitter, mais oui. Je crois à 10 reprises, est-ce que vous pouvez me citer les résolutions des Nations Unies puisque vous me dites que vous avez consulté ma réponse, est-ce que vous pouvez me citer les résolutions des Nations Unies qui parlent de la légitimité des groupes armés?
Rima Hassan, non. Vous maintenez ces propos.
Attendez.
Non, mais ma question est simple. Vous
dites que vous avez
propos.
Lu... Attendez, c'est très important. Là. C'est très, très important. Vous dites que vous avez lu ma réponse. Est-ce que vous pouvez me citer ma réponse sur les résolutions des Nations Unies? Parce que moi, mon langage, c'est le langage du droit international. Hein, donc, je vais
et
pas
sortir
de ce cadre.
Vous êtes juriste, Rima Hassan. Deuxième polémique qui date... Le temps vous est compté. Donc, si vous voulez terminer l'interview juste sur ce point, il n'y a aucun problème.
Vous posez une question qui est très importante.
Terminez, on en restera là, c'est dommage.
Voilà. Et il y a deux points. Le premier, c'est que vous dites que vous avez vu l'interview, c'est complètement faux. Il n'y a aucun de vos confrères qui a pu consulter l'interview et c'est moi qui suis en train d'engager des procédures pour qu'elles soient mises à votre disposition. Donc, vous devriez me remercier. Le deuxième point sur la question de la légitimité, vous dites que vous avez lu ma réponse pour cette interview, vous n'êtes même pas en capacité de retranscrire ce que j'ai publié sur Twitter alors que c'est à votre disposition. Donc, je le rappelle,
c'est à la disposition du public. J'essayais simplement, Rima Hassan, hein, pour vous expliquer les choses.
Mais si vous voulez parler du média du crime, vous parlez
d'accord.
de ma réponse.
Vous savez que dans une matinale radio, Rima Hassan, nous avons 6-8 minutes. J'essayais de vous offrir la possibilité de répondre à toutes les questions et à tout ce qui vous est reproché ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous voulez
mais
vous concentrer uniquement là-dessus.
Très bien.
Vous ne répondrez pas sur les propos de Jean-Luc Mélenchon qui a qualifié le président de l'Université de Lille et qui a fait un parallèle avec le criminel nazi Adolf Eichmann. Vous ne vous expliquerez pas non plus sur le logo sur l'affiche à la conférence de Lille Palestine libre. Tant pis, Rima Hassan, je suis désolé de vous dire, le temps...
Vous m'avez invité pour parler de la plainte, donc je suis en train de vous répondre, vous êtes en train de dévier sur le crayon, je suis en train de vous dire qu'il y a déjà une réponse, il y a même une interview qui est en libre accès de 20 minutes dans lesquelles on cite par ailleurs toute cette interview. Donc bon,
renvoyons nos auditeurs à ce document qu'ils peuvent trouver, en ligne. Merci beaucoup, Rima Hassan. Candidate La France Insoumise aux Européennes. Il est 9h10, vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
On va se détendre un petit peu sur RMC, notre foire au vinyle continue. Vous reconnaissez cet artiste?
Ok, oui.
32-16, c'est maintenant tout de suite. Vos messages sur l'appli RMC, le premier à reconnaître, est avec nous dans 2-3 minutes pour remporter le vinyle collector RMC.
Mais d'abord...
RMC...
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Clara Gabillet.
Ce matin, Clara, on va faire le tri dans notre cuisine parce que beaucoup de nos ustensiles contiennent les PFAS, les PFAS, les polluants éternels, ces microparticules qui sont, on le sait maintenant, nocives, qu'on retrouve dans nos poêles en téflon, par exemple. Une proposition de loi vise à interdire l'utilisation de ces substances, sauf dans les ustensiles de cuisine. C'est quand même dommage. Donc, va falloir les remplacer, Clara.
Bien oui, vous êtes peut-être déjà posé la question ces dernières semaines. Peut-être que vous avez déjà commencé à jeter des poêles, des casseroles. On parle beaucoup de ces ustensiles recouverts de téflon, vous le disiez Mathieu, un revêtement anti-adhésif pour ne pas que la nourriture accroche. C'est pratique, c'est vrai, mais c'est dangereux, explique Anaïs Le Bouffant, directrice des programmes au réseau Environnement Santé.
C'est quand on cuisine et que l'aliment est dans une poêle, par exemple, ou dans une casserole, ou qu'on a une spatule en plastique qui contient des PFAS. Les PFAS migrent dans les aliments qu'ensuite on va manger.
Et c'est donc comme ça qu'on est contaminé. En plus, d'autres choses du quotidien, malheureusement, ces polluants sont partout, même dans l'eau que nous buvons, avec des risques pour le système immunitaire, le foie, les reins, des risques pour du diabète, sur la reproduction, mais aussi ça peut provoquer des cancers.
Alors Clara, par quoi on les remplace ces ustensiles ?
Eh bien, il faut se tourner vers des poêles en inox, des bouilloires en inox plutôt qu'en plastique, des casseroles en fonte. C'est parfois un peu plus cher, mais ça dure plus longtemps et ce sont des alternatives sans danger, explique Anaïs Le Bouffant.
Il n'y a pas de PFAS ni dans l'inox ni dans la fonte. C'est des matériaux qui sont inertes. Hein. On sait que le verre, l'inox, le bois dans la cuisine, c'est très efficace. On évite vraiment le plastique et tout ce qui est revêtement antiadhésif dans la cuisine.
Des ustensiles en plastique à bannir encore plus quand le plastique va être chauffé comme dans un moule en silicone ou une spatule. Le risque de contamination est plus grand quand ça chauffe. Risque aggravé aussi pour les poêles et les casseroles abîmées, griffées. On préférera donc du bois, par exemple des cuillères en bois, des Tupperware en verre.
Et pour l'eau qu'on boit, parce que là aussi il y a des PFAS dans l'eau du robinet, est-ce qu'il y a des solutions?
Eh ben, on peut s'équiper d'une carafe filtrante avec du charbon actif qui permet de réduire de 50% la présence de ces polluants dans l'eau. C'est une étude américaine qui le dit. On trouve ces carafes pour 35 euros. Après, voilà, forcément, il n'y a pas de solution miracle pour éliminer tous les polluants éternels, malheureusement, de l'eau. Mais on peut quand même réduire leur présence à la maison.
Merci Clara. Votre coup de main qu'on soit retrouve en podcast sur l'appli RMC.
9h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Ah, le dernier à jouer avec nous ce matin s'appelle Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
Dans le Tarn-et-Garonne, Thierry, vous êtes à l'écoute d'RMC depuis ce matin. Vous savez que on fait le vide dans la cave d'RMC. Je suis allé piquer des vinyles à l'occasion du Disquaire Day pour vous les offrir. Alors, oui, il paraît que vous avez reconnu ça, vous. Thierry, c'est qui?
Mais c'est Bonnie M, ma Baker.
Oh, bravo! Vous repartez, mon cher Thierry, avec le vinyle collector d'RMC de Bonnet M. Ça vous fait plaisir?
Ah, super.
Bon, écoutez, vous avez des platines, vous, vinyle?
Oui, platine, même, j'ai pas mal de vinyle. J'ai des maxi 45 tours. J'ai un de Carly Weiss, d'ailleurs.
Ah, voilà. Bah, écoutez, alors Thierry, là, le Bonnet M que j'ai, c'est un 45 tours, justement. Donc ça va partir chez vous. Est-ce que vous voulez essayer d'en gagner un autre 45 ou 33 tours?
Oui, bien sûr.
Bon, alors attendez, parce que là, c'est en direct. Hein. On va vous passer un titre et vous essayez de me donner l'artiste. On y va?
D'accord.
Allez, c'est parti.
Oh. J'adore.
Alors.
Billy Idol.
Oh, bravo!
Oui, bravo!
Parce que celui-là, depuis 6h30 ce matin, on essaye de le faire remporter. Personne ne l'avait reconnu.
Et d'ailleurs, il a fait une reprise avec son guitariste, juste la guitare, et juste lui qui chante, elle est géniale.
Ah oui, vous êtes connaisseur, en tout cas, bravo.
Eh ben, écoutez,
oui. Mais j'adore les vinyles, donc de toute façon, voilà.
Celui-là est entré dans la discothèque d'RMC le 26 mai 1997, mon cher Thierry.
Donc, et
celui de Bonnet M, il a dû rentrer beaucoup plus tôt, parce que je crois que je devais avoir 12 ou 14 ans.
J'arrive pas à lire, voilà. Je crois que c'est 77.
Mais tout à fait, c'est ça.
C'est exactement ça, vous avez raison. Un petit troisième, rapidement.
Allez, allons-y, soyons
allez,
fous.
Essayons.
Alors ça, c'est Alors, comment ils s'appelaient, là? Dolly Brothers, ou chose comme ça.
Incroyable festival, Thierry. Et là, c'est en 33 tours, les Dolly Brothers. Bravo.
Ah, bien là, je vous invite à écouter ce morceau avec Daft Punk.
Ah bah écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a eu des reprises, et je disais tout à l'heure, ça avait même été la bande originale du film que j'adore, Nos jours heureux.
Un connaisseur, en tout cas.
Thierry, merci d'avoir joué avec nous.
Mais je suis un fidèle auditeur de RMC, j'écoute RMC à l'époque de Lyon et Jean-Pierre Foucault. Donc vous voyez,
oui,
donc.
D'accord, ok, voilà, imbattable Thierry. Les vinyles ont le même âge, hein, comme ça.
Voilà, mais je pense, oui, mais celui de Bonnet M, il ne doit pas être loin, oui.
Exactement, bon Thierry, ça part chez vous et on va continuer à jouer à ça demain, parce que j'ai adoré vous offrir ces vinyles tout au long de la matinée. Le Disque RD va se poursuivre demain sur RMC. Il est bientôt 9h.
La matinale week-end.